Vous n'avez rien contre les omelettes?
Non, rien du tout.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon.
Voilà, les ingrédients ont
tout, j'adore ça.
Des plats à base d'épices.
La recette d'aujourd'hui, c'est les spézelles.
Oh, mon amère, si vous pouviez déguster ce que je mange.
Why I'm cooking so good!
Ah là, c'est bon.
Depuis l'Antiquité, l'œuf est un symbole cosmique qui traverse les lectures de l'origine de l'univers. Au XIXe siècle, le chimiste Marcellin Berthelot écrit que l'œuf est l'image du monde et qu'il renferme en lui-même les quatre éléments. La coquille de l'œuf est un élément semblable à la terre, froid et sec. Le blanc d'œuf est l'eau divine. Le jaune d'œuf est la coupe rose. La partie huileuse est le feu. En cette période de confinement, l'œuf est aussi un produit qui rassure, comme en témoigne sa présence dans tous les paniers de courses, des familles qui consomment des produits carnés au foyer végétarien. Au tout début du confinement, la peur de manquer a même poussé les gens à se ruer sur les œufs, si bien que les commandes de la grande distribution ont augmenté de plus de 60% les deux premières semaines. On le comprend, l'œuf est cette protéine pas chère dont la forme, le goût et les usages nous sont depuis toujours familiers. En étant à la portée de toutes les bourses, ce produit agricole connaît toutes les tables. À la coque pour cet enfant qui s'attaque à son petit déjeuner du dimanche, des mouillettes de pain beurrées à la main. Un œuf dur à 10 heures en guise de casse-dalle pour cet ouvrier qui porte des charpentes sur ce chantier depuis l'aurore. En omelette avec des copeaux de truffes noires dans ce resto du 8e arrondissement pour cette dame des beaux quartiers. C'est vrai qu'un œuf, ça marche pour tout. Lier une tourte, faire de la mayonnaise, préparer un gâteau de yaourt, ajouter du gras à une poêlée de légumes, du gourmand à une plâtrée de pâtes. Pas étonnant que partout dans le monde, l'œuf soit un aliment autant apprécié. Et même en soi, juste entre son jaune et son blanc, c'est une matière qui peut être travaillée de mille manières. Mollée, au plat, confit, montée en neige. D'ailleurs, c'est par une cuisson lente et naturelle que la mère parvient à le transformer en être vivant. Pour nous aider à choisir de bons œufs et à enfin comprendre ce à quoi correspondent les codes imprimés sur les coquilles, je me suis entretenue avec Adèle, éleveuse de poules rousses à Chanteloup-les-Bois, en région Pays de la Loire.
Bah, au pied des fruitiers, c'est très riche pour la poule, entre les restes de fruits, les feuilles qui tombent, un noyau qui se décompose. Enfin, voilà, donc tout ça, je pense que ça a quand même un effet sur l'œuf à la fin.
Mais avant ça, je me suis rendue à Bruxelles pour rencontrer Grand Ben et Petit Ben du Café Le Dilens, un endroit que j'aime beaucoup dans le quartier de Saint-Gilles. L'un est chef de cuisine, l'autre s'occupe de la salle et de la carte des vins. Ensemble, on a pris l'apéro, le temps d'une discussion passionnée autour de l'œuf, cet aliment qui, pour les deux Ben, est à la base de tout.
C'est mon père qui nous faisait ça en fait le lundi soir quand ma mère n'était pas là. Il nous faisait un œuf poché en friture sur des frites. Et ensuite par-dessus il venait mettre une petite échalote, juste bien ciselée, un petit coup de vinaigre. Et ça c'est vraiment le souvenir que j'ai le plus marquant sur l'œuf de mon enfance en tout cas. C'est vraiment la gourmandise à l'état pur, le plaisir d'être avec son père et son frère et partager une table à trois et de se faire plaisir.
C'est drôle parce que moi aussi, mon souvenir d'œuf, il est hyper associé à mon père. Il cuisine beaucoup moins que ma mère et les soirs où elle n'était pas là et que c'est lui qui devait se charger de faire quelque chose, il faisait juste une omelette toute simple avec un peu de sauce magie par-dessus et ma petite sœur et moi, on adorait ça. Alors que ma mère, tu vois, prenait plus de temps à cuisiner et c'était quand même l'omelette de mon père qu'on kiffait trop.
Oui, bah ça c'est la magie du papa, j'ai l'impression. C'est un peu la magie du papa de savoir rendre des petits instants comme ça très, très marquants.
Et... Benjamin, tu remplis totalement ton rôle de mec qui s'occupe du vin puisque tu nous ouvres une bouteille.
Tout à fait, et c'est un vin qui est vinifié dans un œuf en béton.
Ah ouais ?
C'était la petite blague que je voulais faire.
Dans un œuf en béton, parfait.
Tout
oui, oui, niché dans son œuf de béton.
C'est chez Mainklang, donc on est en Autriche.
Ouais.
Et c'est une petite macération, tu vas voir, c'est plutôt assez sympathique. Une jolie petite couleur.
J'avoue,
c'est jaune d'œuf d'ailleurs.
Très très jaune d'œuf, oui. Alors restons sur la recette de ton père, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment il faisait ça, tu t'en souviens?
Bon, alors tout simplement un bain de friture à 170 degrés où il pochait les œufs en fait comme on peut pocher les œufs en fait dans l'eau chaude en fait tout simplement. Il crée un bouillon en fait dans son bain d'huile, un espèce de petit tournis où il crée un tourbillon en fait dans la friture. Et il jette l'œuf dedans et le blanc en fait s'enrobe autour du jaune et ensuite il n'y a plus qu'à le sortir. tout simplement le passer sur du papier absorbant quand même, parce que voilà, si c'est pour le mettre en plus sur des frites, voilà, au niveau de l'huile, on est pas mal du tout. Mais et c'était vraiment juste ça, vraiment les frites aussi pochées bien sûr deux fois, enfin pochées une première fois et ensuite cuites une deuxième fois. C'était vraiment génial, et ce qui était vraiment très très bon aussi. Après, je viens du nord de la France, et donc en fait on aime bien manger nos frites et avec du vinaigre. C'est vraiment une petite particularité. Par exemple, tu vas vraiment dans une friterie, on va te demander est-ce que tu veux du vinaigre sur tes frites. Ça se demande pas forcément en Belgique, mais chez nous on le fait, on le faisait là avec cette petite échalote en fait qui ramenait énormément de fraîcheur, et avec ce petit vinaigre, sa petite pointe d'acidité, c'était vraiment très très chouette.
Génial. Et toi, Benjamin?
C'est l'omelette de ma grand-mère qui faisait pas du tout le truc l'omelette onctueuse et tout ça, c'était vraiment l'omelette soufflée comme ça, toute simple, jambon, fromage et herbes fraîches.
Ah ouais.
Ouais, ça c'était pas mal ça.
Et la consistance de cette omelette était comme
justement
tu aimes.
Justement très gonflée. Alors moi j'ai complètement changé la façon de faire, mais parce que je la bats pas aussi longtemps, mais elle la battait comme une malade vraiment. C'était pendant un quart d'heure, t'avais vraiment le truc. C'était de la mousse quoi.
Ouais.
Avec beaucoup de beurre.
C'est dans tous les cas des plats, donc toi avec les frites ou là avec le beurre, c'est quand même des plats du coup très jaune-orange. Et ça fait penser à un truc que dit souvent mon copain, c'est quand ton assiette est uniquement constituée d'ingrédients jaunes et oranges, parce qu'en général, aïe aïe aïe, pas forcément le truc le plus équilibré, mais genre c'est quand même trop kiffant.
Ah bah non, complètement. Mais c'est les codes couleurs en fait. On sait que le vert, ça va être plus ou moins sain, quoique encore on peut dévier certaines choses en cuisine. Mais c'est vrai que le jaune orangé n'indique pas un régime en tout cas.
Ouais, rarement.
rarement.
À part des tomates jaunes.
Oui, d'Italie. C'est ça.
Mais bon,
c'est ça.
C'est plutôt des exceptions. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de me dire les œufs, vous les préférez sous quelle forme? Genre dur, au plat, mollet, en omelette, votre cuisson préférée?
Alors moi, c'est définitivement l'omelette. C'est quelque chose, je trouve, qu'on peut décliner sous mille façons, dans le sens où on peut rajouter des produits dans notre omelette, on peut vraiment incorporer des choses dans l'omelette. C'est vraiment quelque chose que moi qui me plaît le plus, c'est, je trouve, où l'œuf encore un peu baveux, c'est où il y a une gourmandise, où c'est très gourmand avec le jaune encore un peu baveux, une omelette bien roulée, une omelette bien faite, c'est pour moi le top.
Et toi, Benjamin?
Eh ben, je pense que ça va être simplement un œuf à la coque.
Ouais.
Quand t'as un vrai œuf très frais, de quelques jours, il n'y a rien à faire. L'œuf à la coque, s'il est parfaitement réussi, c'est juste... Et puis tu peux t'amuser après avec les mouillettes si t'as envie.
Grave.
Mais il n'y a rien à faire. Mouillette au beurre salé, basta. C'est quand même l'essentiel. C'est là où l'œuf, pour moi, est le plus... Tu manges un œuf, tu ne manges pas autre chose, en fait.
Oui, oui.
Mais bon, j'avoue que j'aime bien les omelettes. Je m'en fais souvent. Je suis un gros mangeur d'œufs. Je pense qu'à la maison, on doit en passer une douzaine alors qu'on n'est que deux.
Ouais, c'est vrai.
Semaine. Ouais, ouais.
Et l'œuf à la coque, tu le fais souvent aussi?
Franchement, ouais. Un matin sur deux, je me bouffe un œuf à la coque.
Ah ouais, c'est bien. Ouais. Moi, je ne m'explique pas trop ça, mais j'adore. Mais je ne le fais pas si souvent.
Mais après, il y a peut-être un truc de culture. En Belgique, on mange souvent salé le matin. On mange souvent des œufs. C'est vraiment... Le œuf sur le plat bacon, c'est un truc que nous ici on en passe vraiment beaucoup quoi. C'est vraiment un des best-sellers le matin.
Ouais.
Et les gens mangent ça, c'est pas forcément à 11h quoi, c'est vraiment 8h30, ils s'envoient un œuf bacon quoi.
Et le Dylan's par exemple voit passer combien d'œufs par semaine, combien d'œufs?
Ben, c'est ce qu'on calculait tout à l'heure, donc on est à quoi 600-800 œufs par semaine.
Ah ouais, donc
tout confondu.
Mais c'est énorme.
Voilà. On commence à 8h du matin avec les petits-déj, on embraye après sur les lunchs jusqu'à 15h. Dans la cuisine de Ben, qui est quand même assez gourmande, il y a souvent des œufs qui reviennent. Là, il y a deux semaines, il faisait un œuf fumé au foin pour lier la sauce d'un tartare de veau, ce genre de truc. Et puis après, on vend quand même beaucoup de desserts.
Mmh. Oui, donc là, forcément, dans les gâteaux.
Ouais, tout à fait.
Qu'est-ce que l'œuf, ça apporte alors à la cuisine? En quoi c'est un ingrédient intéressant selon toi?
Alors pour moi, en tant que cuisinier, en tant que... Vraiment, si tu parles vraiment simplement technique, pour moi, c'est vraiment un liant. Moi, quand tu me parles d'œuf en cuisine, je vais pas... Enfin, Oui, on peut penser à l'œuf sur le plat, on peut penser à l'omelette, mais après, c'est des choses qu'on fait à la maison. Mais quand tu me parles en cuisine, je parlerai plus d'un liant. C'est-à-dire qu'une sauce béarnaise, elle est montée comment? Elle est montée à base de jaune d'œuf, avec une gastrique, avec toutes les herbes qui vont derrière. Une sauce mousseline, c'est... Enfin, une mousseline, parce qu'une sauce mousseline, c'est dire deux fois la même chose, mais une mousseline, en fait, c'est vraiment montée à base de jaune d'œuf. C'est vraiment la liaison qu'on peut obtenir avec le jaune d'œuf. Bon, voilà, nous, on cuisine pas du tout italien, mais bon, quand on voit une carbonara, ça se fait pas à la crème, ça se fait avec des jaunes d'œufs. Et la liaison, elle est là, en fait. Et moi, je trouve que le jaune d'œuf et l'œuf a tout son importance en cuisine à ce moment-là, de réussir à bien gérer sa température pour avoir vraiment une liaison parfaite, une sauce bien brillante, nappeuse. Et c'est là tout le secret, quoi.
D'un point de vue chimique, alors c'est ça, il y a des réactions possibles.
Ouais, complètement, mais c'est juste d'un point de vue température, en fait. Si tu dépasses une température, bah, ton œuf, il va grainer. En fait, ça va devenir une omelette, en fait, tout simplement. Et donc, c'est ces points de température où tu as envie d'avoir une consistance nappeuse, mais pas passer du côté obscur de la force de l'omelette, en fait. C'est d'avoir quelque chose de très lisse, de très nappeux, de très brillant.
Ce qui est aussi assez hallucinant avec l'œuf, c'est qu'on parle tout le temps de l'œuf, mais lui-même est composé de deux parties. Vu que t'as vraiment ce jaune et ce blanc, là Ben parlait des jaunes, mais nous, typiquement, on essaye de vraiment rien jeter parce qu'on est dans une optique durable sur le Dylan, on travaille en locavore au maximum et tout ça. Et typiquement, bah, les blancs, vu qu'on utilise plus de jaune par rapport à cette de plus salé des lunchs et tout ça, les blancs vont toujours être réutilisés et tu peux en faire un milliard de choses. Le truc basique qu'on a volé aux Italiens, c'est la meringue et qu'on décline sous toutes les sauces ici.
Ah oui.
On fait de la meringue montée, de la meringue séchée et tout, et c'est super parce que t'as aucune perte en fait. L'œuf te permet vraiment ça, d'être ou bien les deux ensemble créent quelque chose ou bien séparément ils peuvent servir vraiment la cuisine et le cuisinier.
Mais t'as raison, il y a deux éléments dans l'œuf. Je me rappelle avoir vu dans un traité de chimie que les deux, donc le jaune et le blanc, n'ont pas les mêmes fonctions et les mêmes effets. Le jaune permet plus de lier, tandis que le blanc peut apporter beaucoup de texture, de densité. Bah, tu as cité l'exemple des blancs en neige, hein, tout simplement.
Ouais, complètement. Et puis après, c'est vrai que Ben a raison de le souligner, les blancs aussi on l'utilise parce qu'on les met pas à la poubelle bien sûr. C'est par exemple pour le moment à la carte au niveau du soir, on fait un falafel de lentilles vertes qui est germée et bien sûr en fait dans ces falafels on rajoute aussi des blancs d'œufs pour aussi, comme tu dis, de ramener de la texture en fait, parce que ça va ramener de la texture. On a fait un chou farci cette semaine, on a mis des blancs d'œufs dedans parce que ça va ramener de la texture en fait. Donc oui, les deux, le blanc et le jaune sont très importants. Après, c'est vrai que s'il fallait en choisir qu'un, moi je prendrais le jaune, mais d'office.
Puis surtout, si on veut réfléchir à la différence entre le blanc et le jaune, je crois que le blanc peut à la limite être un peu remplacé par d'autres choses. Quand par exemple les gens récupèrent du jus de pois chiche.
Pois chiche, ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais, non, complètement. Mais c'est des choses qu'on a déjà fait ici aussi, par exemple. En fait, ce qui est assez que l'œuf, tu l'utilises tellement, mais dans tous les sens. En fait, là, on peut même parler de cocktail. On a une carte de cocktail ici aussi. Et en fait, un pisco sour, tu peux le monter au blanc d'œuf. Donc oui, non, mais c'est incalculable, en fait, le nombre de possibilités qu'il y a à faire avec un œuf. C'est fou.
C'est con à dire, mais c'est un peu l'ingrédient.
Oui.
C'est assez dingue, parce que tu l'as dans tout. Tu peux l'utiliser sous... mais mille et une façons, il n'y a pas de limite, c'est ça qui est super chouette. Je veux dire, ça peut aller de l'œuf mimosa tout simple jusqu'à l'œuf, le jaune d'œuf semuré qu'ils sont en train d'essayer pour le moment en cuisine pour la nouvelle carte du soir, qui vont venir râper parce que déshydraté après saumuré. Je suis allé manger justement, c'est marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure, avec Ben, je suis allé manger dans le resto de copains hier soir. Et pareil, je voyais le travail sur l'œuf saumuré. Eux, ils l'avaient mis dans un tartare de poisson. T'avais un côté presque poutargue comme ça. C'était complètement dingue. Et c'est sans limite, en fait.
Ouais, je me demande si on peut... Ouais, j'arrive même pas à trouver d'autres ingrédients capables d'intervenir dans autant de recettes, ou même tout seul.
Non, il n'y en a pas. Ah, te pose pas trop la question. Je pense qu'il y a très sincèrement, on le connaît pas encore.
Ouais.
Ou j'ai peut-être pas assez d'expérience que pour le savoir, en toute modestie. Mais non, je pense que très sincèrement, c'est c'est toute cuisine, toute bonne cuisine a des œufs frais dans sa chambre froide, quoi, d'office. C'est indispensable, indispensable.
Et mondialement, c'est un truc que tu retrouves dans absolument la totalité des cultures.
Ouais.
Tu vas bouffer éthiopien, l'œuf dur est toujours présent dans les plats éthiopiens. Tu vas l'œuf de Milan en Chine, quand tu vois la brique à l'œuf en Tunisie, moi j'avais pensé à ça dans mes trucs préférés pour l'œuf.
Est-ce que vous pouvez me parler chacun d'une préparation, d'une recette dans laquelle il y a des œufs et que vous kiffez trop trop trop, et une préparation qui ne pourrait pas exister sans la présence de l'œuf?
C'est vrai que moi j'apprécie énormément les basiques de l'œuf, c'est-à-dire l'œuf mayo, l'œuf mimosa. Mais après, je vais adorer aussi une mayonnaise. Mais bon, après, l'œuf mimosa rassemble un peu les deux et l'œuf mayo aussi. Donc moi, c'est vrai que je partirais sur une préparation à froid de l'œuf, un œuf dur, mais pas trop dur. En fait, bon, après, il y a différentes cuissons de l'œuf. Ça s'appelle 3-6-9. 3 pour l'œuf à la coque, 6 pour l'œuf mollet et 9 pour l'œuf dur. Mais même moi, limite, j'aime bien faire un œuf dur qui n'est pas complètement dur. C'est-à-dire que je le cuis généralement 8 minutes et ensuite après bien refroidi dans une glaçante, donc eau froide et glaçon, pour bien arrêter la cuisson. Et on a un jaune encore un peu luisant, un peu brillant.
Moi, le sentiment que j'ai avec l'œuf, c'est que c'est un ingrédient qui est à la fois très très fort, une belle identité et en même temps assez humble. Tu peux le marier avec tellement de choses et tu sentiras toujours les autres ingrédients aussi.
Je suis 100% d'accord avec toi. C'est là, par exemple, Ben en parlait tout à l'heure, on est en train de faire des tests pour la carte de la semaine prochaine, de saumurer un jaune d'œuf, donc, c'est-à-dire de faire un mélange sel-sucre, tout simplement, et de laisser cuire en fait l'œuf dedans. Le sel et le sucre ont des pouvoirs de cuire les choses, et donc du coup en fait on a fait ça avec le jaune d'œuf, et ensuite après on le passe en déshydrateuse pendant je sais plus, on a fait un test l'autre jour, 1h30-2h à 60 degrés, et ensuite après on le passe à la râpe, et en fait ça devient un condiment. Donc c'est à dire que tu as ce côté sucré salé en fait sur l'œuf, et tu viens râper ça. Donc là, c'est pour développer la prochaine carte, d'essayer de travailler un poisson cuit sur peau, laqué au jaune d'œuf, et ensuite venir mettre un carpaccio en fait, de céleri rave par-dessus, qui est juste bien rôti et qu'on vient trancher à la trancheuse, un peu comme du jambon. On vient le mettre en chiffonnade sur ce poisson et on vient râper cet œuf par-dessus. Et en fait, ça va vraiment être la fleur de sel, ça va être le petit twist, le petit peps que va amener l'œuf, pour le coup, sur le plat.
J'aime beaucoup cette approche qui consiste à prendre vraiment un ingrédient simple et en faire quelque chose de très complexe. Enfin, en tout cas, là, ce truc de le passer à la déshydratation et autres, il y a plusieurs étapes, ça a l'air d'être... c'est presque l'inverse que de... par rapport à râper un ingrédient très très cher ou... tu vois,
ouais, complètement.
Là, c'est genre prendre un truc simple.
Mais c'est
et
vrai que Ben parlait de poutargue tout à l'heure, tu vois. La poutargue, c'est pas donné non plus. Mais c'est vrai que, comme il dit, il y a un petit côté poutargue. Mais bon, en fait, c'est ça qui peut être intéressant. C'est de se dire, mais après, la cuisine, c'est sans limite. Donc, c'est que là, en fait, on va avoir ce jaune d'œuf qui va être déshydraté. Et là, la semaine prochaine, on va le râper tout simplement au-dessus de notre céleri. Mais on va commencer à se dire, mais en fait, si on le fumait aussi. Mais en fait, si on le mettait, imaginons, dans de la sauce soja, imaginons si on le mettait dans du vinaigre, imaginons si on le enfin, dans de la bière même, dans une crique cantillon ou autre, des lambics très acides, est-ce que cette acidité va arriver? Donc oui, par exemple, là, cette semaine, on a fait des essais de se faire le jaune d'œuf avec cette saumure et de rajouter du vinaigre pour essayer d'avoir aussi un côté... une petite acidité en fait sur ce râpé d'œuf. Bon, malheureusement en fait j'ai l'impression que le vinaigre attaque un petit peu la couche extérieure du jaune d'œuf et donc du coup ça perce. Donc on essaye de trouver d'autres solutions pour essayer d'amener une couleur aussi, de mettre du jus de betterave dans cette saumure. Enfin voilà, c'est sans limite, c'est sans limite.
C'est un laboratoire de chimie en fait, le Dylan's. Après notre discussion, Petit Ben m'a livré une technique de la débrouille pour donner un goût particulier aux œufs. Il suffit de les placer quelques jours dans une boîte hermétique avec au choix de l'ail, du basilic, une truffe, du lard fumé ou encore des épices. Le tout pour lui offrir une saveur, car oui, l'odeur passe à travers la coquille.
Place maintenant à un Skype avec Adèle, qui depuis le début du confinement ne quitte pas sa ferme à Chantoux-les-Bois, en région Pays de la Loire, où les commandes d'œufs se multiplient dans la région, puisque tout le monde veut faire des omelettes à midi et des gâteaux le week-end. Il y a un an encore, Adèle, fille d'agriculteur, travaillait dans un bureau en tant que chargée d'études pour le plan local, un poste qui fait suite à sa formation en aménagement du territoire. Et Adèle a décidé de se reconvertir professionnellement pour être au plus proche de la terre. Avant de parler de la production des œufs en France, du bien-être des poules et de l'industrie agroalimentaire qui a besoin d'une grosse quantité d'œufs pour produire tous les jours des brioches, je lui ai demandé de me décrypter les fameux caractères que l'on trouve sur les coquilles. Vous verrez, après ça, vous ne ferez plus vos courses de la même façon.
Alors, le code, il va nous donner une indication sur le mode de production et le lieu d'élevage. Donc des poules. Le mode de production, c'est le premier chiffre. On aura soit 0, 1, 2 ou 3. Donc le 0 correspond à l'élevage biologique, donc avec une certification bio. Donc ça veut dire que la poule, elle est élevée en fonction des règles de la bio. Donc c'est une poule qui va forcément dehors, qui a accès à un parcours extérieur. Et puis, elle a un espace un peu plus grand dans le bâtiment. Elle a des perchoirs qui sont un peu... Enfin, il y a des règles à respecter sur la longueur des perchoirs. Ensuite, il y a le code numéro 1 qui correspond à l'élevage plein air. Donc là, il n'y a pas la certification bio. La surface au sol dans le bâtiment se rapproche aux surfaces du conventionnel, en fait. Mais la poule a accès à un parcours extérieur. Le code numéro 2, on est sur des poules, donc élevage conventionnel. La poule ne va pas à l'extérieur. Elle est dans un bâtiment. Et puis le numéro 3 qui va être amené à disparaître, c'est l'élevage en cage. Donc les poules sont dans des bâtiments et en cage, donc sur plusieurs étages. Voilà. Et puis ensuite, on a deux lettres qui donnent l'indication donc du pays. Donc en France, on trouvera FR. Et puis, les derniers numéros correspondent aux numéros des bâtiments. Enfin, ça, c'est en fonction du département aussi, pour trouver les indications. Donc ça, c'est le numéro qu'on trouve sur l'œuf. Après, il y a un autre numéro qui donne une indication supplémentaire. C'est ce qu'on appelle le numéro du centre d'emballage des œufs. Où on va retrouver le 0, le 1, le 2 ou le 3 pour le mode d'élevage, le FR pour le pays, enfin les deux lettres pour le pays, et puis une indication plus précise puisqu'on a le numéro du département, le code de la commune, et puis un dernier numéro qui correspond au bâtiment sur l'élevage. Voilà. Et ça, normalement, il est toujours affiché sur les boîtes des œufs qu'on achète.
D'accord. Et donc, quand on est face aux œufs du commerce, en tant que consommateur et consommatrice, c'est surtout le premier chiffre qui nous importe, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Si on veut manger des œufs bio, eh bien, faut choisir le code 0. Après, dans le bio, on a aussi des variations. Dans le bio, en fait, y a les élevages... qui peuvent aller jusqu'à... En fait, on a le droit de mettre jusqu'à 3000 poules par bâtiment en bio. Mais parfois, on peut multiplier ces bâtiments-là et on se retrouve sur des élevages qui vont jusqu'à 9000, 12000 poules, voire un peu au-delà. Et puis, il y a aussi les petits élevages bio où on est sur... moi, mon élevage, j'ai deux petits bâtiments de 160 poules. Donc, j'ai un peu plus de 300 poules. Je vais augmenter un petit peu pour augmenter mon activité. Mais ça sera pas... C'est pas le code de l'œuf qui va nous le dire. Ça, après, c'est en se renseignant si on veut... si on veut consommer du bio, point, on peut aller dans le commerce, en grande surface. Si on veut consommer bio et local, bah, faut se tourner vers des magasins de producteurs, aller directement chez son producteur, et puis se renseigner sur la façon dont sont élevées les poules pour en savoir un petit peu plus.
D'accord, ça veut dire donc qu'il y a plusieurs niveaux dans les œufs bio, il y a plusieurs niveaux qualitatifs.
Oui, alors après, au niveau de la certification bio, on n'a pas la différence, on est tous en bio à partir du moment où on respecte les règles, mais quand on se renseigne un petit peu plus, oui, on se rend compte qu'il y a différents bio. Voilà, entre une poule qui sera dans un bâtiment avec 2999 autres poules ou une poule qui est dans un bâtiment avec 200 autres poules, voilà, c'est à peine pareil. Bon, après, ça reste du bio, hein, évidemment, les règles sont respectées, mais on n'est pas sur les mêmes élevages, quoi. Et puis, il y a vouloir manger bio et il y a vouloir manger bio et local, parce qu'on peut trouver un œuf bio à quelques kilomètres de là où on vit, quoi. Donc, voilà, c'est le petit plus qu'on peut rajouter quand c'est local, ça peut...
Oui, ça permet de soutenir les petits producteurs et productrices de nos régions. Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, avec les œufs, c'est qu'il y a quand même tout un truc à déconstruire. Tous les œufs se ressemblent d'apparence, à part ce code-là. Un œuf, c'est un œuf, il y a une coquille, et puis voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que tu peux dire aux gens pour les convaincre de faire quand même attention à plutôt privilégier des œufs bio ou en plein air? Quelles sont les vraies différences?
Alors, les vraies différences, donc au-delà du... Parce qu'en bio, on regarde le bien-être animal, hein, au-delà du fait qu'elles aient accès à un parcours, qu'elles aient un espace plus grand dans le bâtiment. En fait, l'alimentation est bio. Donc, ça veut dire des céréales qui ont été cultivées selon le mode de production bio, donc sans pesticides. Voilà, donc déjà, on élimine toute cette partie-là. C'est de l'alimentation bio. Et puis, par rapport au suivi sanitaire de la poule, en tant qu'éleveur bio, on peut... donc, on ne donne pas de médicaments. C'est surtout de la prévention. Et puis, si jamais il y a une obligation de donner un médicament parce qu'il y a un problème sanitaire, eh bien, en fait, on peut en donner qu'une seule fois dans la vie de la poule. C'est la règle. Mais bon, quand on s'engage en bio, l'objectif, c'est que... Bah, c'est de faire autrement, donc c'est de prévenir en fait les risques, voilà, sur parce que bah la poule elle peut avoir du poux, elle peut avoir des vers, elle peut avoir, enfin voilà, hein, comme tout animal, et donc au lieu de guérir, bah nous on prévient, donc avec plutôt des choses naturelles, hein, des huiles essentielles, de la terre de diatomée, voilà, enfin, dans les petits élevages c'est comme ça qu'on fonctionne.
Et donc, des poules plus saines, ce sont aussi des poules qui donnent des œufs meilleurs pour la santé, j'imagine, avec plus d'oméga-3. On dit souvent que les œufs, c'est une bonne source d'oméga-3. Encore faut-il que la poule qui a pondu cet œuf soit une poule en bonne santé.
Bah, c'est ça. Donc ça, c'est souvent sur les mélanges dans l'alimentation, en fait, la ration, la façon dont elle est composée. Et donc après, moi, c'est vrai que j'achète mon mélange à une entreprise qui est spécifiée dans l'alimentation bio. Donc en fait, ils font une ration équilibrée qui permet à la poule d'être en bonne santé. Parce que voilà, l'alimentation, c'est comme pour nous, hein, si on s'alimente bien, on est en bonne santé, bah, la poule, c'est pareil. Après, sur l'œuf, moi, les retours que j'ai de mes clients, c'est que le jaune est plus jaune. Il y a plus de blanc aussi, ça c'est des retours que j'ai eu, que le blanc est en plus grande quantité par rapport à un œuf en conventionnel peut-être. Après, c'est vrai qu'une poule qui va dehors, bah, elle passe sa journée dehors. Hein. Ça passe son temps à gratter, à manger des petits insectes, à manger une petite graine par-ci, à manger la mouche qui vole au-dessus. Enfin, c'est tout le temps en train de gratter, en train de picorer. Donc, il suffit qu'en plus, ce soit un parcours qui soit arboré. Souvent les parcours en extérieur, donc pour apporter de l'ombre et puis des espaces, des cachettes, des lieux de protection pour que la poule se sente en sécurité. En fait, on plante des arbres ou des bosquets et parfois on plante des fruitiers en fait, puisque voilà, c'est aussi une autre production qu'on peut développer. Et donc au pied des fruitiers, c'est très riche pour la poule entre les restes de fruits, les feuilles qui tombent, un noyau qui se décompose. Enfin voilà, c'est donc tout ça. Je pense que ça a quand même un effet sur l'œuf à la fin.
Ça doit être effectivement une des conditions de vie bien plus intéressantes que pour les poules élevées en cage, donc les poules élevées en batterie, qui ne voient jamais la lumière du jour et se voient vraiment imposer 16 heures d'éclairage artificiel par jour en général, et à qui on donne aussi pour leur survie des vaccins, des antiseptiques, des antibiotiques vraiment en grande quantité.
Ouais. Il y a des modes d'élevage qui sont vraiment là-dedans. Tout est calculé, tout est mesuré. Et comme tu dis, la lumière. Moi, je pense que le fait qu'elle voie le soleil, les poules qui vont dehors, ça a aussi un impact sur l'œuf et sur le goût de l'œuf, forcément. Enfin. Je pense qu'il y a quand même un lien assez fort entre ces deux-là.
J'ai noté en lisant quelques articles sur Internet que quand on prend des œufs bio, on peut avoir jusqu'à 60% de vitamine A en plus. Donc ça rejoint ce que tu dis sur le soleil, quoi. Trois fois plus de vitamine E aussi et sept fois plus de bêta-carotène qu'une poule élevée en batterie.
Et en même temps... Je pense qu'il faut quand même il faut qu'il y ait cette différence, enfin toutes ces productions différentes pour satisfaire les différents débouchés, quoi. C'est en quantité d'œufs, je veux dire. Moi, mon petit élevage, si on fait tous des petits élevages, je suis pas sûre qu'on arrive à satisfaire le besoin en œufs derrière, quoi. Donc on peut pas complètement critiquer non plus cette façon de faire, quoi.
Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis. Oui, ça appelle à un regard mesuré aussi sur l'ensemble des œufs qu'on produit en France. C'est que pris individuellement, c'est mieux de choisir des œufs en code 0 ou 1, mais en même temps, pour les quantités industrielles dont on peut avoir besoin aussi dans l'agroalimentaire, ça peut aussi se justifier qu'on ait de plus grosses productions.
Ouais, je me dis que si on veut continuer à manger enfin voilà, je pense nous dans notre secteur, on a une entreprise qui fait de la brioche. Ils travaillent avec des œufs, je sais pas s'ils sont en bio, mais il me semble qu'ils travaillent avec des œufs plein air. Mais forcément, faut qu'il y ait au moins 30 000 poules dans le bâtiment pour qu'ils puissent produire. C'est des quantités énormes. Donc, voilà, aujourd'hui, si on veut continuer à consommer et continuer à ce que les entreprises en agroalimentaire puissent produire, il n'y a pas le choix, en fait. Faut faire de l'œuf en grosse quantité, quoi. Ça fait partie un peu... Bon. Mais en effet, si on veut se faire notre omelette et nos gâteaux à la maison, vaut mieux aller chercher des œufs chez le producteur du coin, et puis en bio, tant qu'à faire.
C'est des dynamiques différentes aussi, puisque en tant que grande entreprise de l'agroalimentaire, si on a recours à des œufs plein air, donc souvent label rouge, c'est une chose, mais individuellement, en tant que consommateur, consommatrice et citoyen-citoyenne, ça peut être intéressant de s'engager à soutenir les petits producteurs et productrices.
Ah complètement, ouais. Et puis là, dans cette période un peu particulière du confinement, moi je m'en rends vraiment compte qu'il y a Il y a quelque chose qui se passe, vraiment, au niveau de la consommation. Moi, j'ai plein d'appels de gens qui me disent « Ah bah oui, en fait, tu fais de la vente directe, est-ce qu'on peut passer à la ferme ?» Parce que bah, il n'y a plus d'œufs dans les grandes surfaces. Puis bah, en fait, on a le temps aussi, donc on a été faire le marché ce matin. Et puis, enfin, voilà, je sens qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme une prise de conscience. Voilà, en espérant que ça perdure, qu'après le confinement, il y a des petites habitudes qui restent. Et faire vivre les producteurs, quoi.
C'est vrai que c'est tout ce qu'on peut souhaiter, un peu comme quand, pendant la grève, beaucoup de gens se sont mis au vélo, et puis finalement, après la grève, ils se sont aperçus que c'était trop dommage d'arrêter, et que, en fait, le vélo, c'est super bien dans leur vie quotidienne. On peut espérer qu'après le confinement, les gens continuent à valoriser les circuits courts.
C'est ça. Et puis, à aller ouais, directement chez le producteur, parce qu'au final, bah, les produits, ils sont souvent bons, quand même. ils sont pas beaucoup plus chers, voire au même prix, en fait. Il n'y a aucun intermédiaire. Ça fait vivre directement le producteur. Et puis ouais, on fait vraiment vivre un territoire, quoi, en allant acheter sa viande de bœuf à droite, la viande de porc à quelques kilomètres à gauche, les œufs un petit peu plus loin. Enfin, c'est vraiment faire vivre un territoire, quoi. Et puis, bah, manger bien, quoi.
La dernière fois que je suis allée faire mes emplettes à la Biocoop, je suis tombée sur des œufs Pool House, l'œuf qui ne tue pas la poule. C'est comme ça que j'ai appris que la plupart des poules pondeuses sont tuées à l'âge de 18 mois à cause d'une baisse de leur production. Or, une poule peut vivre en moyenne 6 ans. Le concept de Pool House, c'est donc de se baser sur un réseau d'élevage éthique, puisqu'on y laisse toutes les poules mourir de leur mort naturelle. Je vous quitte avec une de mes façons préférées d'utiliser un jaune d'œuf. Le glisser dans un bol et le recouvrir de sauce soja afin de le faire confire quelques heures voire une nuit selon la consistance qu'on veut lui donner. Le lendemain, vous n'avez plus qu'à le déguster sur une assiette de nouilles soba, par exemple, avec un filet d'huile de sésame et quelques verres d'oignons nouveaux ciselés. C'est aussi simple qu'original. Merci aux deux Ben et à Adèle de nous avoir donné de leur temps pour parler d'œufs. Bouffon est une émission de Nouvelles Écoutes portée par moi, Émilie Lextari, montée par Marine Rowe, mixée par Charles de Cilia, programmée par Cassandra de Carvalho et coordonnée par Laura Cuissard avec l'aide de Mathilde Vinet. À mercredi prochain et avant ça, à lundi pour un petit épisode Bouffon la débrouille, notre série spéciale confinement.